RCF. Le 6 décembre 1921 naissait Marcel Callot, le bienheureux Marcel Callot, et à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, occasion de voir pour nous comment il a pu être un laïc modèle encore aujourd'hui, et nous allons en parler avec Thomas Guédier, qui est postulateur de la cause en canonisation de Marcel Callot. Et nous allons avec vous, Thomas Guédier, regarder deux textes importants dans l'Église. Nous allons partir d'un texte qui n'est pas très connu dans les textes du Concile Vatican II, le décret sur l'apostolat des laïcs, et puis un autre texte alors plus récent, puisque c'est un texte de Saint Jean-Paul II qui évoque d'ailleurs largement ce décret sur l'apostolat des laïcs qui s'intitule « Christi Fidiles Laici », c'est une exhortation apostolique de Jean-Paul II. Est-ce que, pour commencer, vous voudriez nous dire, Thomas Guédier, ce que l'on trouve, d'une manière un peu générale, dans le texte du Concile Vatican II, ce décret sur l'apostolat des laïcs?
Eh bien, comme son titre l'indique, ce texte conciliaire, qui est très peu connu, effectivement, évoque la mission, on dirait peut-être plus volontiers aujourd'hui, la mission des fidèles laïcs. Car, dit le texte, les laïcs ont le droit et le devoir d'être apôtres. Et donc, ce texte, décret, est évidemment lié à la constitution Lumen Gentium, qui parle de l'Église. Et donc, ce petit texte, très structuré, présente l'apostolat des laïcs dans différents champs, en définissant certains de ses objectifs. Et comme vous l'avez dit, le pape Jean-Paul II, à l'issue du synode sur les laïcs, en 87, va rédiger cette exhortation Christi Fidelis Laici. Et c'est précisément en 87, donc à la suite de ce synode, que le bienheureux Marcel Callot est béatifié, comme s'il représentait précisément la figure du laïc telle qu'elle vient alors d'être redéfinie.
Puisque vous avez évoqué Saint Jean-Paul II et son exhortation apostolique Christi Fidelis Laici, il est important peut-être de s'arrêter à une première notion que l'on trouve dans ce texte. Le pape Jean-Paul II parle de l'ecclésiologie de communion. De quoi s'agit-il?
Alors c'est peut-être un peu abscon pour nos auditeurs et peut-être que Marcel Callot lui-même n'aurait pas compris ce qu'on voulait dire à travers ces termes. Mais l'ecclésiologie de communion, c'est la manière de définir l'Église, non pas forcément de manière hiérarchique, mais dans la dynamique d'une communion et d'une collaboration fructueuse dans l'apostolat entre les différents états de vie. Et c'est précisément ce qu'a vécu Marcel Callot, lui qui avait un frère prêtre, Jean Callot, et qui, après son arrestation en Allemagne, dont nous reparlerons tout à l'heure sans doute, se retrouve en prison avec 11 autres camarades, parmi lesquels figurent donc 3 séminaristes et un prêtre, et puis d'autres laïcs comme lui. Et ce sera pour lui une grande expérience, douloureuse bien sûr, mais une grande expérience de cette église, donc de cette église communion qui rassemble tous les frères et toutes les sœurs du Christ, enfin tous les frères en l'occurrence, et qu'ils soient laïcs, fidèle laïc ou clerc ou futur prêtre.
On peut dire quand même que cette exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II évoque aussi la spécificité d'une spiritualité laïque.
Parce que, effectivement, les laïcs et les non-laïcs, pourrait-on dire, ont un certain nombre de choses en commun, dont le baptême, ce qui n'est pas rien. Mais le décret sur l'apostolat des laïcs, et Jean-Paul II le redira lui-même dans son exhortation, les laïcs ont ceci de spécifique, qu'ils interviennent au cœur du monde, dans les réalités temporelles. Là où, dira Marcel Callot, les prêtres ne peuvent pas aller. Et donc, découle de cette situation particulière du fidèle laïc inséré dans les réalités mondaines, pourrait-on dire, en tout cas temporelles, découle de cette situation une spiritualité, de fait, qui lui est propre, alors que le laïc est soit père ou soit mère de famille, au contact des travailleurs et de ses semblables au cœur du monde.
On peut donc dire aussi, quand on repense à la vie de Marcel Callot, quand on la relit, c'est que ce qui était essentiel pour lui, c'est de tenir, on peut dire, deux versants, vie spirituelle et engagement au cœur du monde.
à travers ce grand mouvement qui, à l'époque, a le vent en poupe, qui est la jeunesse ouvrière chrétienne. Hein. Marcel Callot est jossiste dans l'âme. Il fut scout aussi. Il a été formé au scoutisme ainsi qu'à la croisade eucharistique, donc qui est l'ancêtre du Mège. Et effectivement, pour lui, vie spirituelle et engagement au cœur du monde ne font qu'un. Et nous inaugurons à Rennes une grande exposition qui met bien cela en relief et qui fait entendre d'ailleurs aux visiteurs l'un de ces discours prononcés devant les jossistes avant qu'ils ne partent en Allemagne. Et on sent donc Marcel Callot traversé par un souffle, un militantisme au bon sens du terme, qui l'amène à répandre la bonne nouvelle au cœur du monde et dans tous les milieux de travail. Hein, car c'est la grande idée de l'Action catholique. La foi ne saurait être une réalité privée, domestique, mais doit éclairer toute la vie du laïc et toute sa vie de travailleur.
Sur RCF, votre émission Une fois pour tous avec Thomas Guédier, qui est postulateur de la cause de Marcel Callot, du bienheureux Marcel Callot, dont on fête le 100e anniversaire de la naissance. Et nous partons de deux textes importants consacrés aux laïcs, le décret du Concile Vatican II et puis l'exhortation apostolique du pape Jean-Paul II de 1987 consacrée aux laïcs. Revenons à ce texte important du Concile Vatican II, mais peu connu, faut bien le dire, sur l'apostolat des laïcs. Il propose, on peut dire, quatre buts pour la vie chrétienne laïque. Est-ce que vous voudriez nous les redire ?
Alors évidemment, il ne faut pas prendre ce texte comme une recette. Hein. Tout cela est traversé par le vent de l'esprit qui improvise d'une certaine manière à toutes les époques. Mais l'un des buts principaux de l'apostolat, c'est la sanctification qui passe par l'engagement des laïcs au cœur des communautés chrétiennes. Ensuite, il y a ce que le Concile appelle le renouvellement chrétien du temporel. Alors là, autant on est bon, si j'ose dire, entre guillemets, dans le domaine de la sanctification aujourd'hui, on voit tout à fait de quoi il s'agit. Il s'agit de la vie de prière, de la vie de prière en communauté. Autant cette réalité du renouvellement chrétien du temporel peut-elle nous sembler un peu difficile à l'heure où, contrairement à l'époque de Marcel Callot, les chrétiens sont très dispersés dans la société, ne forment plus un maillage qui permet d'envisager une influence des chrétiens donc dans la société. Mais il reste que le Concile envisage que les laïcs se rassemblent non seulement pour prier ensemble, se ressourcer autour de la parole de Dieu, mais aussi et surtout pour agir collectivement dans le monde. C'est la seule manière d'exercer une influence sur les mentalités collectives, hein, dit le Concile. Donc ça, le renouvellement chrétien du temporel est une réalité centrale de l'apostolat des laïcs tel que le Concile le définit et tel que Jean-Paul II lui-même reformulera ce décret. Alors évidemment, une autre réalité très importante, c'est la charité, qui est le sceau de l'apostolat, mais le Concile distingue charité et renouvellement chrétien du temporel, hein, qui passe par le renouvellement du monde de la politique, du monde de la culture, du monde des médias, que vous connaissez bien, de l'éducation, du champ international. Donc il y a évidemment donc la charité et tout l'aspect familial est évidemment très important dans ce décret, puisque le laïc est amené à évangéliser la famille et la jeunesse plus largement.
Est-ce qu'on peut résumer la pensée de Jean-Paul II après ce décret du Concile Vatican II dans son exhortation apostolique par les deux mots encore employés aujourd'hui et qui sont toujours à creuser, sans doute, c'est la question de ce qu'il a appelé la nouvelle évangélisation.
La nouvelle évangélisation apparaît clairement ici, mais à condition de ne pas réduire la nouvelle évangélisation à ce qu'on appelle l'annonce explicite de la foi. Hein. C'est vrai que la pastorale des jeunes a beaucoup investi dans ce domaine. Hein. Moi-même, je suis d'une génération qui a évangélisé sur les plages, à guitare en bandoulière, pour annoncer, et c'est très important, explicitement, le kérigme de la foi. Mais la nouvelle évangélisation, compris au sens de l'apostolat des laïcs, passe aussi par un engagement des laïcs qui ne passe pas forcément par une annonce explicite, mais qui n'informe pas moins le temporel de l'évangile à travers le travail, l'application de la doctrine sociale, et qui n'a pas besoin d'être claironné hein, sur les toits, mais d'être véritablement mis en œuvre par tous les chrétiens dans tous les milieux.
Ça veut dire que c'est bien sûr l'annonce explicite, mais c'est aussi eh bien, dans la vie quotidienne, dans les lieux où on est, dans son travail, dans sa famille, dans ses relations, dans le monde associatif, culturel, etc., que l'on va finalement dire la foi de différentes manières aujourd'hui. C'est un peu ça. Et puis aussi, sans jamais oublier ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la question de la charité.
Marcel Callot, dans le discours qu'il adresse aux jossistes, avant de partir en Allemagne, décrit bien tous ces aspects de la fraternité hein, telle qu'elle est vécue au sein de la section JOG, bien sûr, mais précise-t-il, au-delà, dans les ateliers de travail, auprès des jeunes travailleurs qu'il faut respecter, et des sœurs au travail. Là, Marcel Callot est très actuel en pointant la nécessité de veiller aux conditions de travail des femmes à son époque déjà, hein, ce qui évidemment rencontre beaucoup de préoccupations de notre époque. Et bien sûr, il faut évangéliser, et on voit bien que Marcel Callot a précisément été arrêté en Allemagne parce qu'il continuait à faire de l'action catholique. Hein, c'est bien comme catholique qu'il a été arrêté. L'officier qui l'a arrêté, dit un témoin, parce que trop catholique, précisément. Mais évidemment, cette identité catholique est indissociable d'une action concrète au sein des réalités économiques et sociales.
On peut dire que finalement, il a été, et à travers sa vie, sa courte vie, il a été quelque part un modèle de ce que le Concile proposait, puis le pape Jean-Paul II, pour l'apostolat des laïcs, hier et encore aujourd'hui.
Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle le pape François, dans Christus Vivit, a présenté Marcel Callot comme l'un des 12 modèles hein, pour la jeunesse du monde entier. Alors les autres Français qui figurent dans cette liste sont Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de Lisieux. Donc vous voyez, c'est pas mal sur le podium quand même français. Et bien sûr que c'est un modèle. Alors non seulement parce que Marcel Callot a travaillé très jeune, hein, il devient apprenti typographe à 13 ans, mais aussi parce qu'il avait le projet de se marier avec une certaine Marguerite d'Herniaux, à qui il écrit beaucoup en Allemagne. Et dans les lettres qu'il lui adresse et que le diocèse a redécouvert récemment, grâce au filleul de cette femme qui a transmis les lettres au diocèse, nous découvrons évidemment toute la spiritualité conjugale hein, qui irrigue la spiritualité de Marcel Callot. Et en parlant en toute simplicité de leur mariage, on sent vraiment du coup, un amour très puissant et un désir de purification mutuelle. Hein. Marcel Callot, qui est bien heureux, dit qu'il avait besoin de Marguerite pour s'élever plus haut. C'est une vision du mariage très, très moderne, alors qu'à l'époque, eh bien, encore une fois, hein, il faut imaginer que Marcel Callot n'avait précisément pas lu Christi Fideles Laici, ni le décret sur l'apostolat des laïcs, ni le concile. Donc là, il y a vraiment une intuition très forte chez lui de la responsabilité propre aux laïcs.
Et on peut dire aussi que pendant son temps, jusqu'à la fin de sa vie, pendant son temps de détention, il a fait preuve, on peut dire, jusqu'au bout d'une grande charité. Ça compte aussi, ça veut dire quelque chose encore aujourd'hui.
La charité, effectivement, dans cette prison de Gotha dont je parlais tout à l'heure. Et avant, en Allemagne, lorsqu'il était encore au STO, ses lettres témoignent d'une grande activité apostolique. Il organise des messes. Hein. C'est vraiment dans toutes les lettres qu'il écrit à ses parents, à son frère prêtre. Il se réjouit d'avoir pu amener à la messe tant de Français. Et alors, ce qui est d'ailleurs assez rassurant, c'est que même à l'époque, le nombre de pratiquants n'était pas extrêmement élevé. Hein. Il est très content d'amener 10 Français à la messe sur 50. Hein. Donc, vous voyez, ça nous encourage dans nos propres efforts apostoliques. Donc, la charité, mais qui passe aussi par l'organisation de tournois de foot, par l'organisation de pièces théâtrales. Il n'y a rien d'éthéré chez Marcel Callot, tout est enraciné. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans sa première lettre, la première lettre qu'il écrit à sa famille, alors qu'il arrive en Allemagne, il n'est pas du tout question de spiritualité. J'étais étonné, moi je croyais qu'on allait lire de grandes considérations sur la providence. Alors bien sûr, les références au Christ, à la prière sont constantes, son courrier, mais dans sa première lettre, eh bien, comme vous et moi, il raconte son voyage en toute simplicité. Et tout cela donc témoigne d'une d'une vie chrétienne profondément incarnée, aux côtés donc de ses frères qui partent en Allemagne travailler. Et c'est vraiment la grande idée à l'époque des jossistes, de partir en Allemagne précisément comme missionnaire pour être aux côtés des travailleurs français.
Sur RCF, votre émission Une fois pour tous avec Thomas Guédier, postulateur de la cause de Marcel Callot, dont on fête le 100e anniversaire de la naissance ce 6 décembre 2021. Et nous évoquons brièvement la vie de Marcel Callot à partir de deux textes importants qui concernent les laïcs, le décret sur l'apostolat des laïcs du Concile Vatican II et Christi Fideles Laici, l'exhortation apostolique du pape Jean-Paul II. Nous continuons de ce parcours en évoquant Marcel Callot à partir de ces deux textes. On voit bien qu'on a entendu qu'il y avait différents buts à atteindre pour ceux qui cherchent à être chrétiens. Vous avez parlé du renouvellement chrétien, de l'ordre du temporel, vous avez parlé de la charité, vous avez parlé de la famille, on a parlé du milieu social, national et international. On peut dire que finalement, ce qui va compter, c'est de chercher dans tous les domaines de sa vie, que ce soit, ça peut nous interroger d'ailleurs aujourd'hui, bien sûr dans la paroisse, avec ceux qui sont les sœurs et les frères avec qui on vit en communauté, mais c'est aussi au cœur de la société que doit se vivre, bien disons, cette suite du Christ pour les chrétiens et pour Marcel Callot déjà.
Effectivement, aussi et surtout, le Concile insiste sur le fait que la spécificité du laïc, c'est d'agir au cœur du temporel. Alors bien sûr, la paroisse demeure un lieu de ressourcement très important, mais Marcel Callot nous invite à considérer l'Eucharistie, qui est au cœur de la vie paroissiale, non seulement comme le sommet, pour reprendre les termes du Concile, mais aussi comme la source qui nous propulse à l'extérieur, ad extra, comme dit l'expression, et auprès des réalités sociales et économiques. Alors c'est vrai que l'Action catholique a beaucoup insisté sur cette dimension-là. Le renouveau charismatique qui a marqué évidemment les dernières décennies sur le plan pastoral a redécouvert la richesse de la vie intérieure, de la vie de prière. Et je pense que nous sommes à un moment où nous parvenons à une synthèse possible entre cette force qui nous pousse au dehors, auprès du monde, dans les périphéries, comme dit le pape François, et une synthèse entre cette force et cette force intérieure qui nous permet précisément de puiser dans les sacrements et la vie spirituelle, la force d'évangéliser.
On peut dire aussi que les textes du Concile, quand ils parlent de l'apostolat des laïcs, insistent sur deux notions qui sont très complémentaires et qu'il faut tenir sans doute, et que Marcel Callot a pu tenir aussi, c'est l'apostolat individuel et l'apostolat organisé. Tenir les deux, quoi. Vivre des choses soi-même, par sa vie quotidienne, sa vie de tous les jours, mais l'importance de vivre sa foi avec d'autres et de vivre cet apostolat. apostolat avec d'autres.
Oui, alors effectivement, le décret fait cette distinction entre apostolat individuel et apostolat organisé. L'apostolat individuel étant le plus important, c'est la relation interindividuelle entre les personnes. Et Marcel Callot, évidemment, a vécu cette relation interindividuelle au sein de sa famille. Et même dans son milieu de travail, où paradoxalement, Marcel Callot était assez esselé. Dans ses lettres, il explique que dans le milieu du livre où il travaillait, qui était très anticlérical, il était assez peu entouré de jossistes, paradoxalement, de sorte qu'il n'y avait pas vraiment d'équipe jossiste où Marcel Callot lui-même travaillait. Mais il y a cet apostolat organisé, alors qu'il n'avait de cesse de promouvoir lui-même au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne, qui consiste précisément pour les chrétiens à se rassembler, mais non pas tant pour prier ensemble, comme on le fait aujourd'hui volontiers, mais aussi et surtout, comme je le disais au début, pour agir efficacement au sein de la société. Alors ça, c'est quelque chose de difficilement imaginable pour nous, puisqu'on ne voit pas bien, avec le nombre que l'on est, comment on va pouvoir s'organiser pour exercer une influence quelconque dans tel ou tel domaine de la société. Mais c'est malgré tout l'idée. C'est-à-dire que l'évangélisation n'est pas le fait d'individus, seraient-ils illuminés, qui vont par eux-mêmes agir dans le monde. Puisque le Concile précise que l'identité de l'homme est une identité sociale, et donc son action apostolique doit elle-même revêtir une dimension collective. C'est logique. Et donc, c'est peut-être une interpellation, effectivement, pour nous, qui nous retrouvons volontiers pour prier, et c'est tant mieux, mais qui devons aussi nous intéresser à la manière d'atteindre les mentalités collectives. Alors, sans stratégie mondaine, bien sûr, bassement politique, mais avec le souci de pouvoir informer notre économie, notre culture, notre vie politique des valeurs de l'Évangile.
Et puisque vous parliez à l'instant des valeurs de l'Évangile, il faut aussi dire, Thomas Guédier, que Marcel Callot, eh bien, s'en est largement inspiré. C'est ce qui le nourrissait, c'est ce qui le formait, les Écritures.
Les Écritures, oui. Bien sûr, on étudiait à la JOC la Bible, l'Écriture sainte, même si à l'époque, nous sommes avant le Concile, ce grand approprié de la Bible par les fidèles n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est à travers la liturgie qu'il la fréquente aussi, que ce soit à Rennes ou en Allemagne. Mais je pense que pour comprendre Marcel Callot, il faut vraiment être dans la logique de l'action catholique. Alors, peut-être pas au sens du mouvement proprement dit, même si bien sûr c'est possible aujourd'hui, mais d'une vie chrétienne qui n'est pas orientée vers le secret des temples, comme disait le pape Pie XI, je crois. Non pas vers le secret des temples, mais vers le monde, surtout pour les laïcs, vers les réalités professionnelles, politiques et culturelles. Mais sans pour autant, et c'est là la difficulté, chercher à affirmer envers et contre tout une sorte d'identité catholique. Mais il s'agit vraiment d'être présent, oui, présent au monde. Alors à chacun, effectivement, d'y réfléchir, mais avec d'autres. C'est ça, c'est, je pense, la grande leçon de la vie de Marcel Callot, c'est que la vie chrétienne est, pour employer le langage de l'époque, une vie d'équipe, une vie communautaire, mais communautaire jusque dans l'action au cœur du monde.
Et c'est peut-être ça que la vie de Marcel Callot a à dire aux chrétiens aujourd'hui, dans une église qui est devenue, et vous l'évoquiez d'ailleurs Thomas Guédier, largement minoritaire, c'est-à-dire comment continuer à être présent au monde et ne pas se contenter d'un petit entre-soi qui pourrait être le risque quand on est minoritaire d'une certaine manière. Et que si, par exemple, beaucoup de diocèses promeuvent, par exemple, l'importance de se retrouver en fraternité, donc avec plusieurs, à plusieurs, c'est aussi toujours pour nous ajuster et être présents du mieux que nous pouvons dans le monde auquel nous sommes envoyés, parce que c'est toujours ça le défi, en fait, pour les catholiques.
Bien sûr, aller au monde. Et je pense que Marcel Callot aurait été sensible à cette expression utilisée par Benoît XVI qui désignait l'Église comme une minorité créative qui doit agir dans le monde. Mais la difficulté, effectivement, c'est qu'on a tendance à être sur la défensive et à mettre en avant, j'allais dire, une identité. Mais ce n'est pas du tout ça. Marcel Callot, l'identité catholique, de toute façon, elle est évidente pour lui, baigne là-dedans depuis son enfance. Mais non, son souci, c'est vraiment de faire advenir, pour employer le langage de l'Écriture, le royaume de justice et de paix. C'est cette grande idée de la justice. On parle beaucoup de miséricorde, bien sûr, et c'est fondamental, mais la miséricorde est indissociable de la justice, et cela passe par la justice sociale, les conditions de travail des hommes et des femmes. Et c'est aussi cela, pour Marcel Callot, l'évangélisation, et envers et contre tout. Et c'est là que nous n'avons pas encore abordé, mais la question du martyr de Marcel Callot, témoignage suprême, qui a consisté à mener cet apostolat donc dans l'Allemagne nazie, où, à partir du 3 décembre 1943, il était précisément interdit, non pas d'aller à la messe, hein, la liberté de culte n'était pas du tout mise en cause, mais interdit de former des groupes, précisément, des équipes. Pourquoi ? Parce que les nazis redoutaient à juste titre que ces groupes puissent créer une forme de dissidence et organiser une résistance au cœur même de l'Allemagne. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la résistance spirituelle, hein, de Marcel Callot, qui n'est pas à confondre bien sûr avec la résistance, avec un grand R que l'on connaît, ni même avec la résistance chrétienne, puisqu'il y a eu des engagements patriotes, hein, de chrétiens bien sûr, dans la résistance. Mais il y a cette idée selon laquelle Marcel Callot a opposé de fait à la barbarie une résistance du seul fait de mettre en œuvre cet apostolat collectif, hein, dont nous parlions tout à l'heure. S'était contenté d'aller à la messe, j'allais dire faire œuvre de piété, ça ne posait absolument aucun problème au régime, c'était prévu. Mais ce qui les gênait, c'était précisément l'action des chrétiens dans le monde, dans la société. Et pourquoi ? Parce que c'est précisément cette action qui risque pour la barbarie d'être ferment d'évangile et de justice.
Et c'est parce qu'il aura justement été jusqu'au bout dans cette action collective que ça va d'une certaine manière le mener à sa fin.
Tout à fait. Puisque parmi les 50 jeunes à être arrêtés pour les mêmes raisons que Marcel Callot en Allemagne à cette époque, parmi les 50 qui sont morts, évidemment Marcel Callot sera une sorte d'aîné, hein, les autres sont moins connus, mais il ressortira du lot, si j'ose dire, parce qu'un prêtre de Rennes, le père Gégaud, racontera très vite sa vie. Et permettra à tous ces martyrs, alors qu'ils ne sont pas encore proclamés tels par l'Église, mais tous ces témoins, eh bien, de pouvoir être connus. Et voilà, d'où la béatification de Marcel Callot, qui est indissociable, et pour cause, de tous ceux qui l'ont accompagné dans ce long calvaire, jusqu'à la déportation, le camp de Mauthausen, pour ce qui est de Marcel Callot.
Pour terminer, Thomas Guédier, je disais en commençant cette émission que vous êtes le postulateur de la cause en canonisation de Marcel Callot, on en est où ?
Bien, on en est au début, comme toujours, hein, au début d'une longue aventure. Non, Marcel Callot est béatifié, et donc il est de plus en plus connu. Vous voyez, pour l'anniversaire ici, pour le centenaire de sa naissance, nous allons accueillir des délégations de la France, de tous les lieux qui portent le nom de Marcel Callot, d'Allemagne, d'Autriche, mais aussi d'Afrique, du Burkina Faso ou du Côte d'Ivoire. Donc son rayonnement augmente, et l'action de Marcel Callot dans le cœur de l'Église, eh bien, se vérifie. Alors vous savez que pour la survenue d'un miracle, hein, est déterminante pour ce qui concerne un procès de canonisation. De nombreux signes sont transmis à la postulation, mais évidemment l'Église, dans sa grande sagesse, prend le temps de discerner ce qui vient véritablement de Dieu et les miracles, en l'occurrence, ou un miracle, pour être plus précis, qui est expliqué par ceux qui en ont bénéficié ou par ses témoins, par l'intercession du bienheureux Marcel Callot.
Thomas Guédier, merci beaucoup d'être venu nous parler de Marcel Callot à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Je rappelle qu'il y aura de nombreux événements dans le diocèse de Rennes à cette occasion, notamment une exposition. Et puis c'est l'occasion aussi peut-être de vous replonger les uns et les autres qui nous écoutaient dans la vie de Marcel Callot. Vous pouvez aller par exemple le faire en allant sur le site internet qui lui est dédié. C'est tout simple pour le trouver, c'est marcelcallot.com. Thomas Guédier, merci beaucoup.
Merci.